une histoire particulière. Mathilda, 12 ans, adore les sciences. Ses héros sont Léonard de Vinci et Marie Curie. Quand elle perd un concours de sciences, elle est furieuse, d'autant qu'elle a perdu parce qu'elle est une fille. Sa grand-mère, une ancienne astrophysicienne, a autrefois découvert une planète que s'est approprié un odieux personnage, le professeur Smox. Elle décide de partir s'incruster dans la cérémonie de remise des prix Nobel pour dénoncer l'usurpation et rétablir la justice. Cette histoire est celle d'un livre pour enfants, « L'effet Mathilda » de l'autrice Ellie Irving. Une histoire inventée, mais pas vraiment, car aujourd'hui, Olivier Chaumel et François Test vous racontent la véritable histoire de l'effet Mathilda.
Pour tous ceux qui intéressent le prodigieux développement scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici réalisé par Paul Castan une émission de Paul Sarès, placée sous le haut patronage du Conseil de l'Ordre des médecins, « Le progrès et la vie ». Le mongolisme, variété fréquente d'arriération mentale, a fait l'objet de recherches multiples tant en France qu'à l'étranger. Le professeur Turpin étudie cette maladie depuis plus de 30 ans et récemment, des travaux poursuivis dans son laboratoire par ses collaborateurs, le docteur Lejeune et mademoiselle Gauthier, ont abouti à la découverte de la cause du mongolisme.
Trisomie, une aventure scientifique controversée. Olivier Chaumel, François Test.
Nous sommes dans le laboratoire de l'hôpital Trousseau, en compagnie de monsieur le professeur Turpin et du docteur Lejeune. Bonjour messieurs.
46 plus 1 égale 47. Un chromosome en trop.
Le mongolisme est le type d'une maladie congénitale. L'enfant atteint de cette affection naît en effet avec elle.
Son diagnostic peut donc être fait dès la naissance.
Oui, dans la plupart des cas. Mais les traits caractéristiques du mongolisme vont s'accentuer avec la croissance.
Quelle est l'anomalie essentielle ?
L'attention est attirée tout d'abord par le retard des signes qui traduisent l'éveil intellectuel, par leur insuffisance ou même par leurs défauts. Persistance anormale des réflexes des trois premiers mois, retard du sourire, retard des premiers mots. Plus tard, le vocabulaire des Mongoliens restera pauvre. Et s'ils arrivent à lire, à écrire ou à compter comme des enfants de 4 à 5 ans, ils ne dépasseront jamais cette limite. En général, ceci les empêche d'être affectueux, amusants par leur goût de la mimique, paresseux. Parfois, le trouble du développement intellectuel, cependant peut-être plus grave, le mongolien présente alors des colères pathologiques, des accès de mutisme.
Parallèlement, la croissance de l'organisme est profondément troublée, n'est-ce pas ?
Mais bien entendu, le retard du développement de ces anormaux est à la fois psychique et moteur. Les Mongoliens ne marchent souvent qu'à 2 ans et demi à cause de la mollesse, de l'hypotonie de leurs muscles. Leur évolution dentaire est anarchique et au terme de leur croissance, ces sujets sont toujours de petite taille. Néanmoins, la transformation pubertaire s'effectue chez eux et même les filles peuvent être exceptionnellement fécondes dans certains cas.
Le reportage est enregistré à l'hôpital Trousseau à Paris. Paris Inter l'a diffusé le 11 novembre 1959. Quelques mois plus tôt, les deux interlocuteurs du journaliste de la radio, Raymond Turpin et Jérôme Lejeune, signaient, en compagnie d'un troisième personnage important dans l'équipe, une jeune femme du nom de Marthe Gauthier, un bref article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, où l'on explique que dans les cellules des enfants mongoliens, il y a un chromosome qui est en 3 exemplaires au lieu de 2 en cas normal. Ça peut n'avoir l'air de rien, mais cette découverte faite à 3 est d'une formidable importance sur le plan intellectuel et scientifique. La trisomie 21, qu'on appelait savamment syndrome de Down, du nom d'un austère aliéniste britannique qu'il avait étudié dans les années 1860, est restée une énigme pendant près d'un siècle après sa description. D'où venaient donc ces êtres à part, qui représentaient une naissance sur 700 environ, qui ne vivaient pas vieux, et qu'on appelait, à défaut d'autres mots, mongoliens? Aude Dugas.
Vous savez pourquoi on les appelait mongoliens? Parce que, ce qui était quand même extraordinaire, c'est comme explication raciste, je pense qu'on n'a encore jamais trouvé mieux. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la seule explication qu'on avait trouvée, avec Langdon Down notamment, c'était de dire, mais en fait, pendant la grossesse, un enfant passe par toutes les races dans son développement, pour finir par la race blanche, qui est évidemment la race la plus accomplie. Et donc ces enfants-là sont arrêtés à une race intermédiaire, et comme on voit à leur tête, c'est la race des Mongols. Donc, c'est quand même surréaliste de penser que les enfants s'appellent mongoliens à cause de cette explication. Voilà. Et donc ça, jusqu'en 1930, 1940, il n'y a pas d'autre explication. Alors, on a bien compris que ce n'était pas la bonne explication, mais on n'a rien trouvé d'autre.
Donc, c'est l'inconnu le plus total.
L'inconnu le plus total. Ces enfants-là, dans le service du Raymond Turpin, étaient, enfin pas que les enfants, d'ailleurs toutes les personnes, étaient relégués dans le service des maladies sexuellement transmissibles. Et on ne savait pas si c'était contagieux, on ne savait pas si c'était à cause du père qui avait la syphilis ou qui était alcoolique. Donc les gens changeaient de trottoir à l'époque parce qu'on disait ici, oh là là, attention, il y a un enfant mongolien, attention ma chérie, tu vas peut-être l'attraper. Donc il y avait vraiment, enfin c'était une espèce de fatalité qui tombait sur la famille, quoi.
On est à l'Académie de médecine à Paris, en compagnie de Marie-Hélène Couturier-Turpin, qui est une des filles du professeur Raymond Turpin, et son époux Daniel Couturier, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. C'est dès les années 30, Daniel Couturier, que Raymond Turpin fait l'hypothèse que le mongolisme, qu'on appelle aussi syndrome de Down, décrit dans les années 1860, serait de nature chromosomique. Comment est-ce que ça lui vient ?
Dès qu'il a eu une équipe autour de lui, chef de service, d'abord à l'hôpital Saint-Louis, puis à l'hôpital Trousseau, il s'est préoccupé de recherche et il a été très préoccupé d'un sujet, un vaste sujet qui n'était pas très appréhendé par les équipes de l'époque, c'est celui des maladies héréditaires, des prédispositions familiales. Et à partir de là, il s'est très rapidement intéressé tout spécifiquement au mongolisme. Tout s'est développé entre 30 et 34. D'abord, il a été entouré d'un collaborateur qui s'appelait M. Karatsali. Et là, ils ont fait un travail très important en étudiant 100 cas, cliniquement bien sûr, à cette époque, de mongolisme. À partir de cette cohorte, il s'est aperçu ensuite qu'il y avait toute une convergence d'arguments et qui laissait penser que c'était non seulement une maladie génétique, mais probablement une maladie chromosomique, une aberration chromosomique.
Donc Turpin fait cette hypothèse d'une cause chromosomique.
Mais il a mis beaucoup de temps à mettre en œuvre sa vérification.
Mais alors, justement, ça c'était en 36-37. Bon, après, il y a eu la guerre. Et puis, il faut voir qu'il y avait 60 hypothèses différentes. C'est-à-dire qu'il y a eu celle-là, mais il y en a eu une soixantaine d'autres. Il ne suffit pas d'avoir une idée, quoi. Il faut la démontrer.
Et ce n'est qu'en 1956 qu'a eu lieu le premier congrès mondial de génétique humaine, à Copenhague. Il était présent et au cours de cette réunion, il a repéré une petite communication assez brève de deux anglo-saxons, je ne sais pas si ce sont des Américains ou des Anglais, ces deux chercheurs montrait pour la première fois un caryotype humain obtenu à partir de cultures de cellules adultes. Ils étaient capables de donner le nombre de chromosomes et on voyait la morphologie des chromosomes. Il est rentré à Trousseau, il venait de s'entourer à l'hôpital Trousseau, dans son service, de deux personnalités qui étaient en pleine forme de recherche, puisque c'était des jeunes.
Lui est en fin de carrière.
Lui, il était 63 ans, c'est la fin de carrière. C'est pas tout à fait la fin, mais c'est le moment où on a une notoriété et on n'a plus le même... Enfin, on est dans un état un petit peu différent. Et il avait eu la chance d'avoir ces deux personnalités avec lui. D'une part, Jérôme Lejeune, qui était un jeune chercheur du CNRS, extrêmement dynamique, extrêmement entreprenant. Et deuxièmement, de façon tout à fait providentielle, Marthe Gauthier, qui était une pédiatrique cardiologue, mais qui avait eu la bonne idée d'aller se former aux États-Unis à la culture cellulaire. Et donc, elle a pris en main l'affaire avec le jeune et elle a développé la technique du caryotype humain à partir de la culture de cellules. Puis, dès qu'il a été question d'appliquer la méthode à la pathologie, Raymond Turpin, bien entendu, a demandé que ça soit chez les Mongoliens qui en appliquent en priorité de façon à voir ce qu'il en était par rapport à son hypothèse de 1934.
Alors Marthe Gauthier est issue du milieu agricole, hein, c'est une fille de paysan.
De Seine-et-Marne.
Voilà, de Seine-et-Marne, d'un petit village qui s'appelle Auxerre.
Corinne Royer.
Qu'elle a beaucoup aimé et où elle retournera d'ailleurs, hein, passer une dizaine d'années au moment de la retraite. C'est une femme très amoureuse des forêts, très amoureuse de la nature. On retrouve tout ça dans le livre. Hein, et puis, donc, ils sont 7 enfants dans cette famille d'agriculteurs. Il y a une maman un peu... Le mot est peut-être exagéré, mais un peu féministe, qui veut absolument que ses filles soient autonomes, aient une réussite sociale. Et donc, elle va pousser ses filles à faire des études. Et Marthe Gauthier va aller en pensionnat pour ses études secondaires à Lille. Elle va avoir son bac avec mention. Et après, en 1942, elle va rejoindre sa sœur aînée, sa sœur Paulette, qui est partie faire médecine à Paris. Donc elle va la rejoindre et malheureusement en 1944 Paulette est tuée par une balle perdue. Donc Marthe va se retrouver seule à Paris. C'est une femme, elle ne connaît aucun professeur, elle est poussée et soutenue par personne. Donc elle va batailler dur pour réussir et effectivement elle va réussir brillamment ses études de médecine et elle va s'intéresser en spécialité à la cardiologie pédiatrique. Donc elle va passer sa thèse avec le professeur Debré, qui va la repérer et Robert qui va l'envoyer, voilà tout à fait Robert Debré, et qui va l'envoyer aux États-Unis. Donc elle va faire partie des 3 premiers boursiers des hôpitaux de Paris, qui vont être financés pour aller faire une bourse d'études aux États-Unis. Et c'est lors de ce voyage aux États-Unis, où initialement elle se déplaçait pour approfondir ses connaissances en cardiologie pédiatrique, qu'elle va tout à fait par hasard avoir à remplacer quelqu'un qui est en congé maternité et qui travaille dans un laboratoire de culture cellulaire. Et donc c'est lors de ce séjour aux États-Unis qu'elle va acquérir toutes les compétences de culture cellulaire.
Toutes ces découvertes ont été réalisées grâce à de nouvelles méthodes d'observation. Et pour que nous puissions mieux comprendre comment vous pouvez distinguer ces chromosomes qui sont infiniment petits et très difficiles à observer, à photographier, pourrions-nous voir ces chromosomes, par exemple, sous le microscope ou sur une photographie?
Eh bien, c'est très facile. Vous avez ici, sous le microscope, une préparation. Nous allons l'observer à l'immersion, c'est-à-dire à un grossissement de l'ordre de 1000.
Eh bien, je me penche sur le microscope. Attention, je l'adapte, ça y est, maintenant ça me paraît assez nettement. Et là, on voit en effet des sortes de filaments. Quelquefois, on voit très bien la division. Ils se croisent, il y a des points au centre. Ils ont des formes assez différentes.
C'est exact. Le point que vous voyez au centre est en fait le point par lequel les 2 chromosomes fils qui viennent de se dédoubler sont encore attachés l'un à l'autre. Ce point va par la suite se rompre et chacun des chromosomes fils va migrer chacun vers son pôle de telle façon que cette cellule va se diviser en 2 cellules qui contiendra le même nombre de chromosomes que la cellule mère.
Haute du gars. En général, à cette époque-là, il n'y a aucun moyen. C'est presque du bricolage.
Ah bah oui, on peut dire que c'est du bricolage, vous avez raison. On voit dans des écrits qu'effectivement, Jérôme Lejeune, alors le labo est trop petit, donc on met le microscope sur un brancard, on pousse le brancard pour pouvoir accéder à sa table de travail, puis on retire le brancard. Le microscope, je crois, date des années 20 ou 30, donc il est obligé de le bricoler avec du papier d'argent, vous savez, des tablettes de chocolat pour pouvoir améliorer les choses. On a un peu de mal à imaginer quand même. Et puis, l'établissement des caryotypes, donc des chromosomes, c'est compliqué. Aujourd'hui, maintenant, tout ça se voit beaucoup mieux, évidemment. Mais à l'époque, c'était quand même très compliqué d'observer à l'œil nu sur le microscope. C'est comme essayer de compter des chromosomes comme ça à l'œil nu. C'est comme compter des vermicelles dans le fond d'une assiette à soupe, quoi. C'est quand même pas facile, hein. Et du coup, ils faisaient des photos avec le photomicroscope qu'après qu'on agrandissait beaucoup. Et après, on découpait... Enfin, je dis ça comme si j'étais... Mais ils découpaient les chromosomes et puis ils les associaient... paire par paire, et il les collait avec du scotch sur une feuille en papier, quoi. Donc, c'était des moyens très rudimentaires.
Quand Marthe Gauthier, en 56, intègre l'hôpital Trousseau et donc le service du professeur Turpin, Jérôme Lejeune travaille déjà sur le mongolisme. le professeur Turpin a toujours cette intuition par rapport aux chromosomes. Et il dit quand même, il faudrait qu'on arrive à savoir si le mongolisme est vraiment une histoire de chromosomes ou pas. Mais pour ça, il faudrait savoir faire de la culture cellulaire. Là, tout le monde se tait parce que personne en France, à l'époque, ne sait faire de culture cellulaire. Et au milieu de tout le personnel du service, il y a un petit bout de bonne femme qui lève la main, donc il s'agit de Marthe Gauthier, et qui dit « Mais si, professeur, moi, je sais faire de la culture cellulaire ».
Le moment paraît donc venu de prier le docteur Lejeune de décrire ces anomalies qui représentent le premier exemple d'aberration chromosomique responsable d'une maladie humaine.
Examinons maintenant, si vous voulez, une cellule de mongolien.
Elle comprend 47 chromosomes.
46 sont absolument normaux, et voici le 47e qui est tout petit et qui a des petits bras hétérochromatiques.
Ce chromosome surnuméraire existe dans toutes les cellules de mongoliens que vous avez examinées.
Oui, cette observation a été faite dans notre laboratoire chez 15 enfants mongoliens différents et tous sont rigoureusement identiques.
Eh bien, merci messieurs. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que le développement des recherches que justifie cette curieuse maladie réponde bientôt à l'attente des malheureuses familles qui mettent tout leur espoir dans la découverte de nouvelles ressources thérapeutiques.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, Marthe a souhaité vérifier que sa technique fonctionnait. Donc, comme on avait appris que l'espèce humaine comptait 46 chromosomes, elle a d'abord fait ses expérimentations sur des cellules saines. Et c'est qu'en mai 1958 qu'effectivement, elle a fait la première expérimentation sur des enfants atteints du syndrome de Down. En juin, les lames sont lisibles, elle fait son décompte, et effectivement, sur la paire 21, il y a un chromosome en plus. Alors, pour pouvoir affirmer sa découverte et communiquer sur une découverte, il faut être absolument sûr du résultat. Or, on l'a dit tout à l'heure aussi, son microscope ne permet pas de faire des photos de qualité. Et à ce moment-là, Jérôme Lejeune, qui commence à voir qu'elle obtient des résultats, que ça marche, vient de plus en plus souvent au laboratoire et commence à oublier un peu ces histoires de plis palmaires médians et puis ses comparaisons avec les primates.
Il s'intéresse davantage aux
Il commence à s'intéresser aux cultures cellulaires. Mais lui n'a aucune compétence en culture cellulaire. D'ailleurs, quand Marthe va avoir besoin d'aide, c'est pas Jérôme Lejeune qui va venir l'aider. Il va y avoir deux femmes, deux assistantes qui vont venir aider Marthe Gauthier dans ses recherches. Mais à ce moment-là, quand en juin 1958, Marthe Gauthier effectivement est à peu près sûre de son résultat, il dit il y a bien un chromosome en plus, il faudrait pouvoir avoir un photomicroscope de bonne qualité pour faire une photo. Jérôme Lejeune lui dit, ça tombe bien, je pars en vacances à l'étranger et je vais dans un laboratoire qui a un excellent photomicroscope, donc confiez-moi les lames et je vais faire réaliser les photos. Et donc Jérôme Lejeune part avec les lames, il fait faire effectivement les photos et qui confirme le résultat de Marthe Gauthier, il y a bien un chromosome en plus, sauf que Marthe Gauthier ne reverra jamais les lames. Et que donc, après, il va y avoir un congrès au Canada où Jérôme Lejeune va annoncer la découverte et se présenter comme le découvreur de ce qui s'appellera ensuite la trisomie 21.
N'empêche que Marthe Gauthier est néanmoins associée aux différentes publications à ce sujet.
Oui, alors sur la première publication, Marthe Gauthier donc va avoir son nom en deuxième position, mais son nom va être erroné. Son nom et son prénom d'ailleurs vont être erronés, puisque au lieu d'avoir Marthe Gauthier, on va avoir Marie Gauthier.
Et avec un H.
C'est quand même étonnant. Et avec un H à Gauthier, ce qui est absolument pas le cas. Et je crois quand même que Marthe n'a pas attendu de voir qu'elle était en deuxième position, de voir que son nom était erroné pour sentir le sens du vent. Elle a très bien senti à un moment qu'il y avait un accord entre le professeur Turpin et Jérôme Lejeune et que de toute façon la découverte ne lui reviendrait pas.
Aude Dugas, biographe de Jérôme Lejeune.
Une découverte est toujours le fruit d'un travail d'équipe. Hein. C'est sûr que Jérôme Lejeune, tout seul sur une île déserte, n'aurait rien trouvé. Ça, on est bien d'accord. Mais
ce trio.
Mais il faut un travail d'équipe, bien sûr. Si Raymond Turpin ne lui avait pas proposé de venir travailler là, si Raymond Turpin ne lui avait pas confié les enfants mongoliens, s'il n'y avait pas eu déjà plein de recherches faites sur lesquelles Jérôme Lejeune s'est appuyé pour avancer, mais bien sûr, mais... Personne ne fait jamais une découverte tout seul comme ça, Deus ex machina, ça n'existe pas. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est la part de chacun. Marthe Gauthier a apporté cette technique des États-Unis, c'est ce qu'elle dit, et ce qui lui a été toujours reconnu, c'est ce qui a été dit partout. Dans tous les textes, d'ailleurs, c'est intéressant, dans tous les textes de Jérôme Lejeune, quand il parle de cette découverte, dans la leçon inaugurale, dans sa thèse, dans tous les articles, il remercie longuement Marthe Gauthier pour l'apport de la technique. Mais Marthe Gauthier n'a pas inventé cette technique. Vous voyez, ce serait, elle a rapporté des États-Unis cette technique très précieuse, géniale, ça va lui permettre d'avancer. Et Turpin lui donne les moyens d'avancer, l'encourage, il lui dit OK, on publie. Voilà. Mais là, l'étincelle, c'est Jérôme Lejeune.
Daniel Couturier.
D'abord, les deux personnalités, Marthe Gauthier et Jérôme Lejeune, étaient très, très différentes. Marthe Gauthier était réservée, très concentrée sur son travail, très méticuleuse, je crois. Et on n'a pas eu d'échange vraiment privé tellement avec elle. En revanche, Jérôme Lejeune, c'est un homme qui avait du talent, des facilités à communiquer avec l'environnement. Un charisme, oui, c'est ça, une espèce de... il était brillant en conversation, etc. Marthe Gauthier, qui avait joué, c'est vrai, un rôle crucial, puisque c'est elle qui a vu la première fois qu'il y avait un chromosome surnuméraire, a été, du fait de son caractère que j'ai essayé de vous indiquer brièvement, a été un peu en retrait. Et quand elle a vu l'importance qu'on pouvait en tirer du point de vue scientifique et du point de vue renommé, elle s'est trouvée un peu privée de la participation au développement des connaissances auxquelles qu'elle avait initié en quelque sorte.
Il aurait fallu probablement qu'elle soit plus...
Yvette Sultan.
Qu'elle se donne plus de mal pour faire valoir ses droits et ses... Et souvent, les femmes ne font pas cette démarche de crier très fort que c'est elles qui ont trouvé et qu'il faut penser à elles. Et elles se laissent flouer dans ce domaine.
Il y a un adage, Corinne Royer, qui dit que... Une femme en science, pour réussir, doit être deux fois meilleure.
Oui, c'est tout à fait ça, mais à l'époque, c'était pas deux fois meilleure, c'était 10 fois meilleure. Moi, je me souviens d'une petite anecdote d'un journaliste qui avait interviewé Marie Curie et qui lui avait dit « Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un génie ?» Et Marie Curie avait répondu « Demandez plutôt à mon mari. » Voilà. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la femme n'avait pas sa place dans la recherche, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui a tellement été courant qu'il a été nommé, hein, on appelle ça l'effet Mathilda, en hommage à Mathilda Gage, qui était une féministe américaine. Et si ça a été nommé, c'est précisément parce que le nombre de cas était considérable.
Est-ce que vous avez des hypothèses sur l'origine de ce syndrome-là? Le dénigrement des femmes dans la science.
Je crois qu'il y a quelque chose de purement mathématique. C'est-à-dire que quand on pense que sur 80 internes dans la promotion de Marthe Gauthier, il y avait seulement 2 femmes, ça veut dire concrètement que la place des femmes ne pesait pas en médecine. Et qu'elles n'étaient pas...
Ça tient à l'archaïsme
du... Oui, elles n'étaient pas un nombre assez important pour se faire entendre. Mais de toute façon, je dirais que c'est un problème sociétal qui dépasse largement le cadre de la science. Pendant longtemps, même en littérature, les femmes ont été... considérées comme faisant une sous-littérature. C'est pas un problème, c'est vraiment un problème sociétal, au-delà du monde scientifique, mais c'est encore plus aigu dans le monde scientifique.
Simone Gilles-Jeune-Krantz, vous êtes généticienne. Vous êtes une amie de Marthe Gauthier.
Alors, maintenant, je suis une amie de Marthe Gauthier de longue date, mais à l'époque, je ne la connaissais pas.
La publication date du début de l'année 1959.
Oui.
Et c'est 50 ans plus tard que Marthe Gauthier dénonce les faits. Oui. dans un article de la revue Médecine Science.
Oui.
Il y avait un peu de ressentiment chez elle ou pas tant que ça?
Il n'y en avait pas, parce que elle a quitté très vite le laboratoire et elle a fait de la cardiologie pédiatrique. Et quand on lui en parlait, elle disait « Moi, je fais de la cardiologie, de toute façon, le labo, ça ne m'intéresse plus, c'est des gens qui se servent de tubes, moi, j'ai des contacts avec les malades et c'est ça que j'aime. » Mais
elle était passée à autre chose.
Elle était passée à autre chose. Elle était devenue donc cardiopédiatre. Mais pour vous donner une réponse, là, qui est un petit détail, une des premières fois où je suis allée chez elle, je suis passée dans la deuxième pièce qui existe dans son appartement, et puis il y avait un tableau avec des chromosomes. Alors je lui dis, ah, tiens, vous avez quand même mis des chromosomes sur votre mur. Elle m'a dit, vous savez, on ne s'en remet pas comme ça. Hein.
Oui, ça continuait à l'intéresser.
Voilà, à l'intéresser, et puis elle en avait gardé quand même un souvenir de son histoire à elle, quoi.
Si je vous fais la proposition suivante, Daniel Couturier, que la découverte de la nature chromosomique du mongolisme, qu'on appelle par la suite trisomie 21, ne se serait pas faite sans Raymond Turpin, ne se serait pas faite non plus sans Marthe Gauthier, ne se serait pas faite non plus sans Jérôme Lejeune. En gros, je suggère que chacun a été indispensable. Est-ce que vous me suivez?
C'est vrai que la découverte faite à l'hôpital Trousseau à Paris par l'équipe que vous venez de citer, elle a été providentielle parce qu'elle a réuni des compétences de nature totalement différentes et des possibilités de nature très différentes, et que cette conjonction a été tout à fait favorable et a permis que cette première aberration chromosomique humaine soit décrite en France par une équipe française, qui était quand même évidemment très important compte tenu du développement de cette pathologie. Bref, je crois que cette conjonction de ces trois personnalités très différentes était nécessaire pour aboutir à ce résultat.
Trisomie, une aventure scientifique controversée. Avec Aude Dugas, biographe de Jérôme Lejeune, Daniel Couturier, gendre de Raymond Turpin, Corinne Royer, romancière, Simone Gilles-Jeune-Krantz, généticienne, Yvette Sultan, hématologue. Merci à Seraya Maouche de l'association Éthique et Intégrité, à Claudine Herman, à la Fondation Jérôme Lejeune, à l'Académie de médecine, à Antoine Beauchamp de France Culture et à Marie-Hélène Couturier-Turpin. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. 46 plus 1 égale 47. Un chromosome en trop. Une histoire particulière. François Test, Olivier Chaumel.
La suite de l'histoire de l'effet Mathilda, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.